Orient Hebdo, Éric Bataillon.
La guerre d'Algérie, les rêves d'émancipation des enfants d'immigrés, mais aussi la question de l'orientation sexuelle en terre musulmane, les luttes de pouvoir au sein des institutions de l'islam sunnite ou la lutte à bas bruit des Palestiniens, tels sont quelques-uns des thèmes abordés par le cinéma franco-arabe. Des films à voir lors du 11e festival de Noisy-le-Sec en banlieue est parisienne. Nous recevons sa directrice de la programmation, Annie Bichet. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Annie Bichet.
Bonjour Éric Bataillon.
On vous doit la programmation de cette 11e édition du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec dans la banlieue est de Paris. Tout d'abord, quel a été votre objectif cette année ?
Eh bien, cette année, c'est la 11e édition, donc je me dis que le festival, il a pleinement sa maturité. Donc, c'est de poursuivre le travail enclenché, puis en même temps d'apporter quelques nouveautés à l'intérieur du festival.
Dont nous parlerons pendant cet entretien. En cérémonie d'ouverture, vous proposez une soirée jordanienne avec un film inédit, Farah, de Darin Salam. Et en première partie, un court-métrage de Faisal Atrash, From the Mountain. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, le festival du film franco-arabe a un lien particulier avec la Jordanie, puisque c'est lié au festival du film franco-arabe qui a lieu depuis plus de 20 ans à Amman, en Jordanie, que ce festival est né ici en France. Il souhaitait qu'il y ait un écho de ce festival ici en France et particulièrement en banlieue parisienne. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de répondre positivement à cette proposition, parce qu'on pensait que c'était pertinent d'organiser cette manifestation ici, en Seine-Saint-Denis, où il y a un métissage important, une richesse franco-arabe. Voilà pourquoi. Et donc tous les ans, traditionnellement, nous ouvrons le festival avec un film jordanien.
Avec, pour cette cérémonie d'ouverture, vos parrains et marraines.
Exactement. Donc on retrouve avec grand plaisir notre parrain d'honneur, Monsieur Costa Gavras, qui nous accompagne depuis plusieurs années, qui est un fidèle, qui est très attaché à ce festival et on en est vraiment très fiers. Et puis la marraine qui est cette année Erige Seyri, réalisatrice de Sous les figues, qu'on présentera en avant-première le samedi 19 novembre, film qui sort en décembre et qui est en train de rafler presque tous les prix dans les festivals dans lesquels il est programmé, récemment à Carthage. Et c'est un film magnifique, son premier film de fiction. Elle a réalisé La Voix normale, qu'on remontre également là cette année à l'occasion de ce festival.
Carthage en Tunisie. L'Algérie semble également être un thème majeur cette année pour le festival. Est-ce parce que le pays marque ses 60 ans de l'indépendance ? Et de son côté d'ailleurs, pour la France, les accords d'Évian ?
Oui, c'était pour faire écho à cet anniversaire. Et donc j'ai souhaité marquer le coup avec La bataille d'Alger, qui est un des grands films sur cette guerre. Et puis un grand film de cinéma qui a marqué. Et puis programmer également Les Oliviers de la justice, film qui a été fait en 62, donc la date vraiment anniversaire, et qui, à travers sa fiction, montre tous les prémices de cette guerre, de cette révolte. Et puis Les Harkis de Philippe Faucon, qui l'a fait récemment, son dernier long métrage, mais qui parle des Harkis avec une grande finesse, un film de fiction, mais vraiment magnifique. Et puis l'Algérie sera présente avec des films récents également.
On notera que 3 des 4 films consacrés à l'Algérie ont été tournés par des réalisateurs non algériens et non français. 2 sont américains, le 3e est italien.
Oui.
Est-ce un parti pris ou un gage d'une plus grande neutralité dans le propos ?
C'est plutôt que le cinéma français a mis longtemps à oser raconter cette histoire, ces histoires. Et donc, c'est d'autres personnes qui ont eu envie de s'y coller, de s'y attacher. Le cinéma français a commencé très tardivement, comme toute la France, quoi, à regarder ça un petit peu en face. Et donc, ceci explique cela. C'est un hasard. Et en même temps, c'est les conditions de cette espèce de mémoire à trous. Et donc, donc, c'est en même temps intéressant, puisque ça a un autre recul, un autre regard. Et puis, que depuis quelques années, quand même, on en a parlé, le cinéma français l'a regardé. Mais il a mis un certain temps.
Alors, Annie Bichet, plus globalement, à côté de la Jordanie et de l'Algérie, quels sont les autres thèmes abordés cette année? Est-ce qu'il y a une diversité de sujets?
Oui, il y a une diversité de sujets, comme tous les ans. Le cinéma tunisien est très présent, pas uniquement avec les films de la marraine, mais il y a une vraie vitalité du cinéma tunisien. Et cela, c'est un cinéma qui a une histoire, comme le cinéma algérien, dans les pays arabes, importante. Mais à partir du printemps arabe, il y a eu une recrudescence, une revie. Enfin, ce cinéma, à travers l'émergence aussi de beaucoup de jeunes femmes cinéastes, vraiment est d'une grande richesse, d'une grande diversité. Donc la programmation est à cette image. Et puis, chaque année, on essaie de proposer un voyage dans les autres pays arabes. Donc, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Irak, il y a le Liban, et puis il y a la France, puisque c'est franco-arabe, et que donc on raconte aussi cette histoire de notre côté également.
Alors, certains films interrogent plus particulièrement la place des jeunes Français issus de l'immigration arabe. Pour la France, de Rachid Hammi, Grand Paris, de Martin Jouva, Nos Frangins, de Rachid Bouchareb, Divertimento, de Marie Castille, mention Chahar, ou encore Le Gang des Bois du Temple, de Rabah Amer Zamaïch. Cette question de l'identité de cette jeunesse est-elle toujours aussi importante, plus de 60 ans après la fin de la colonisation française au Maghreb?
Oh oui, je crois qu'elle est d'une actualité brûlante, et que donc c'est vraiment important d'en parler, de le raconter, et cela avec divers regards. Vous allez voir, les films sont vraiment très très différents, ils abordent cette question-là d'une manière très très diverse. Je pense qu'il y a un grand malaise dans ces générations, la difficulté de se sentir français, parce qu'ils ne sont pas regardés comme tels alors qu'ils le sont, et puis un grand malaise aussi du côté des parents, du côté des générations avant, qui sont restés invisibles ou quasiment invisibles longtemps, et cette souffrance-là a rejailli sur les plus jeunes. Et puis il y a la place de la diversité. Quand on s'appelle Mohamed, ça reste difficile de trouver sa place en France, et donc toutes ces histoires-là, c'est important d'en parler, de les raconter, et avec des regards et puis des perspectives aussi nouvelles qui montrent aussi que des choses bougent, que des choses changent, et que bon, bah, tout n'est pas non plus dramatique ou désespérant, mais qu'on peut raconter ça, montrer ça, et que c'est important qu'il y ait à la fois des prises de conscience de tout le monde, de nous, face à ça, et puis aussi peut-être qu'il y a pas mal de films qui amènent aussi à sortir aussi de certains peut-être positionnements trop victimaires, qui sont aussi durs, qui aussi des entraves à pouvoir s'assumer et vivre le mieux possible.
Et l'on découvre à l'occasion de très bons acteurs et de très bons réalisateurs.
Exactement, c'est l'occasion à travers tous ces films d'avoir des échanges avec des réalisateurs, des actrices, des comédiens, des techniciens qui seront présents pour parler des films, pour échanger avec les spectateurs.
À signaler encore La Conspiration du Caire du réalisateur égypto-suédois Tariq Saleh. Un thriller politico-religieux, prix du scénario à Cannes cette année.
Oui, tout à fait. C'est un des films importants de la compétition cannoise qui a été justement récompensé pour son scénario qui est assez incroyable, d'une richesse et qui est très alambiquée et complexe et en même temps passionnant. C'est un vrai thriller, presque un film d'espionnage, mais dans ce contexte-là. Et c'est un film d'une grande puissance. Bon, bah, son réalisateur n'a pas pu le tourner en Égypte, hein, puisqu'il est interdit de séjour là-bas. Et il est parti en Suède déjà depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il avait, même son précédent film, il aurait souhaité le tourner en Égypte. C'est des gens qui sont déracinés, puis qui en même temps qui essaient de continuer à parler de leur pays, et c'est magnifique ça, c'est vraiment une grande richesse.
Un film qui est actuellement à l'écran, à l'affiche en France, que l'on peut aller voir. Nous avons parlé pour l'essentiel des longs-métrages de fiction, le festival propose également une projection de courts-métrages avec une compétition à la clé.
Tout à fait, chaque année nous organisons une compétition de courts-métrages, fiction et documentaire, et donc il y aura une projection de ces courts-métrages le jeudi 24 novembre à 18h pour attribuer un prix du public, documentaire fiction, un prix du jury, et cette année, nouveauté, un prix des jeunes grâce à une classe de lycée Liberté de Romainville qui sera présent pour attribuer leur prix.
Parce que le regard des plus jeunes est différent du regard des adultes sur la production cinématographique.
Bien sûr, c'est un autre regard. Et là, il y a des gens très très jeunes. Je suis assez fière, il y a des courts-métrages qui auront leur première sélection grâce à notre festival. Donc c'est vraiment précieux. Et c'est vrai que c'est important de montrer l'émergence de ces jeunes cinéastes, d'autres regards, d'autres façons de voir les choses, de les raconter aussi à travers des courts-métrages qui aussi montrent le début, la naissance de cinéastes en herbe qui, on espère, vont pouvoir continuer et faire leur long-métrage très bientôt.
Annie Bichet, le samedi 26 novembre sera une journée spéciale. Dites-nous pourquoi.
Parce qu'il y aura une masterclass. C'est une des nouveautés de cette 11e édition. Masterclass proposée à Amin Bouarfa, qui est un compositeur de musique et compositeur de musique de film. Il a été connu pour la musique qu'il a fait pour Timbuktu à l'époque. Il a eu plusieurs prix et donc sa carrière a vraiment explosé à ce moment-là et il ne cesse de faire des musiques de films, beaucoup pour les cinéastes d'origine arabe, mais pas que. Et cette année, donc, c'est lui qui a fait la musique de Sous les figues de Erich Seiri, la musique de Nos frangins et la musique des Harkis de Philippe Faucon. Il avait déjà fait la musique de Amine. Donc on organise une masterclass à partir d'extraits des films sur lesquels il a travaillé. Il va nous parler de sa façon de travailler, de ses méthodes de travail. Et puis il y aura un moment de questions-réponses avec le public.
D'autres événements en dehors du cinéma et de la musique de film ?
Oui, il y a un concert que l'on présente avant Divertimento, un concert de musique cham, c'est-à-dire que c'est les jeunes élèves qui sont au collège, qui sont en classe cham, qui vont se produire avant le film Divertimento, qui est une fiction qui raconte l'histoire de la chef d'orchestre Zaya Adouani, originaire de Seine-Saint-Denis, qui est devenue chef d'orchestre, voilà, avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer en étant femme et d'origine algérienne. Et puis, donc, pour la remise des prix, le dimanche 27 novembre, donc on remettra les prix, on projettera les courts-métrages primés. Il y aura un moment de danse traditionnelle algérienne à l'issue des projections et des remises des prix.
Cham, qui veut dire classe à aménagement musique.
Tout à fait.
Merci Annie Bichet.
Merci à vous Éric Bataillon.
Programmatrice du 11e Festival du film franco-arabe qui se tiendra à Noisy-le-Sec, mais aussi à Romainville, au cinéma Le Trianon, et à Pantin, Montreuil et Bobigny, dans d'autres salles de cinéma, du 18 novembre au 1er décembre.
تعرف بقى برشا فازير صاروا في سويني
أوريون إبدو sur RFI.
Deux courts extraits de films dont la musique est signée Amine Bouafa, Sous les figues d'Erij Sehiri et Les Harkis de Philippe Faucon. Deux longs métrages à voir respectivement les 19 et 22 novembre au cinéma Le Trianon de Romainville dans le cadre du 11e festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Nous prenons maintenant la direction du Caire et de Jérusalem pour lire la presse de la semaine avec nos correspondants. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Bonjour.
Et bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une de vos journaux, Alexandre, la COP27 qui se tient justement en Égypte, ce grand rassemblement pour lutter contre le changement climatique, est suivi par la majorité des journaux arabes.
Et la grande question qui intéresse les journaux, c'est le dédommagement demandé aux pays riches par les États qui souffriront le plus du réchauffement climatique. Les journaux égyptiens ne manquent pas de souligner qu'une bonne partie du delta du Nil sera submergée, tout comme Alexandrie, une zone habitée par plus de 15 millions de personnes aujourd'hui. Les pays africains et asiatiques sont eux aussi sensibles à la question et ne manquent pas de manifester pour réclamer des dédommagements à la COP27. C'est ce qu'indiquent les journaux. Ils estiment toutefois que même si la question a été inscrite à l'ordre du jour, les pays riches préféreront accorder des aides bilatérales et éviteront de parler de dédommagement. Les journaux hostiles au pouvoir égyptien s'intéressent pour leur part aux manifestations et appels qui auront lieu en marge de la COP27 pour la libération de Alaa Abd El Fattah, le plus célèbre détenu égyptien et une des figures de proue du soulèvement qui a renversé Hosni Moubarak en 2011.
En route vers un nouveau gouvernement israélien, mais Michel Paul, c'est, semble-t-il, moins facile qu'il n'y paraissait au départ.
C'est en tout cas le sujet dont on parle le plus en cette fin de semaine ici. Son protagoniste est toujours Itamar Ben-Gvir, le leader de l'extrême droite israélienne et aussi le grand vainqueur des élections du 1er novembre dernier. Il réclame, et il est en passe de l'obtenir, le portefeuille de la sécurité intérieure. Il sera ainsi responsable de la police. Ben-Gvir n'a cependant pas hésité à prendre la parole jeudi soir lors d'une soirée à la mémoire du rabbin raciste Meir Kahana. Et le plus curieux, c'est qu'il s'est fait huer par le public de cet événement qui jugeait qu'il avait trop mis d'eau dans son vin. Il a notamment affirmé qu'il ne souhaitait pas l'expulsion de tous les Arabes. Pour un commentateur, Israël nage dans le surréalisme politique le plus complet. L'éditorialiste du journal de gauche Haaretz estime que l'on joue avec le feu en envisageant de confier des ministères sécuritaires à des extrémistes. Netanyahou a des raisons d'être inquiet, affirme encore le journal. Autre sujet d'inquiétude selon les chroniqueurs, la réforme du système judiciaire que prévoit la coalition gouvernementale à venir, une attaque frontale contre la Cour suprême à l'ampleur apocalyptique, estiment même des juges à la retraite, sous couvert d'anonymat.
Les écrivains expatriés, défis et difficultés. Alexandre, c'est une conférence aux Émirats arabes unis qui intéresse les pages culturelles de plusieurs journaux.
La conférence rappelle que le phénomène n'est pas nouveau et que le XXe siècle a vu des écrivains expatriés aux États-Unis comme les Libanais Gibran Khalil Gibran, Elia Boumadi et Mikhaïl Naïma. Mais les nouveaux expatriés viennent de pays dont les habitants n'étaient pas des oiseaux migrateurs comme les Libanais, soulignent les journaux. Parmi les écrivains qui sont intervenus à la conférence, il y a le yéménite Habib Abderrab, qui vit en France. Il a souligné l'importance de la maîtrise de la langue du nouveau pays d'adoption ainsi que la difficulté de l'intégration dans un monde nouveau, sans pour autant abandonner la culture d'origine. Selon les participants, cette expatriation a eu un effet sur les sujets abordés, mais aussi sur la syntaxe même de l'arabe utilisé.
En bref, Michel, les autres sujets qui font l'actualité en Israël.
Dans les airs, sur terre et sur mer, c'est le titre d'un éditorial de Haaretz consacré au blocus de la bande de Gaza. Plus de 2 millions d'habitants vivent depuis plus de 15 ans en état de siège permanent, fait remarquer le journal qui s'en prend en particulier à une décision qui remonte au milieu de la semaine. Israël a interdit l'exportation des produits de la pêche à Gaza vers la Cisjordanie. Une mesure qui n'a rien à voir avec des questions de sécurité et qui doit être annulée immédiatement, estime le quotidien de gauche. Un nouveau scandale en perspective également, le Shin Bet. Le service de la sécurité intérieure en Israël reconnaît avoir suivi les activités de journalistes à l'aide de données fournies par des compagnies de téléphones cellulaires. À suivre donc. Et puis un autre sujet qui fait la une, plus sympathique celui-là, un accord avec le Qatar. Israéliens et Palestiniens voleront ensemble sur des vols charter entre Israël et le Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA fin novembre. Il s'agit des premiers vols directs de l'histoire entre Tel Aviv et Doha.
Le Qatar, dont nous reparlerons la semaine prochaine à l'occasion du début justement de cette Coupe du Monde de football. Et l'image que vous nous proposez ce samedi, Michel ?
Eh bien, c'est la photo de Donald Trump vue de dos en première page du supplément magazine de Yedioth Ahronot ce week-end. L'homme qui fut le grand allié de Benjamin Netanyahou et cette légende, on lui tourne le dos.
Merci Michel, merci Alexandre, merci à Mathias Golchani, réalisateur fidèle de cette émission, que vous pouvez retrouver, l'émission bien entendu, sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, nous parlerons économie en Tunisie avec l'ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda, en poste au sein du gouvernement de technocrates mené par Mehdi Joma en 2014-2015. À demain donc, prenez soin de vous.
Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Thinking of me when you